Radio Okapi.
À la une de l'actualité de la mi-journée sur Radio Okapi, 20 millions d'euros, c'est la somme que le Conseil de l'Union Européenne décide de débloquer pour appuyer la 31e brigade de réaction rapide des forces armées de la République démocratique du Congo. Cette mesure d'assistance rentre dans le cadre de la Facilité européenne pour la paix. Dans la province du Maïndombé, le trafic est interrompu sur l'axe routier reliant Kwamout City et le village Massiambio dans les territoires de Kwamout. Selon la société civile locale, la cause, c'est la présence des coupeurs des routes qui se sont installés depuis quelques jours au niveau du village Nselé où ils empêchent toute circulation. L'invité de ce journal est le directeur de communication de la CENI, Jean-Baptiste Itipo, va nous expliquer notamment pourquoi le délai du dépôt des candidatures pour les députés nationaux a été repoussé tout en mettant en garde les retardataires. Avant d'aller plus loin, sachez tout d'abord qu'au Nord Kivu, au moins 9 personnes, dont un combattant Nyatura et 8 civils, sont décédées dans l'explosion d'un engin de guerre. L'incident a eu lieu hier, dans la matinée, dans le village Loubwe Sud. C'est dans le groupement de Tongo, territoire de Rutshuru. Plusieurs sources affirment que la mauvaise manipulation de cet engin de guerre pour ces combattants qui serait à la base de l'explosion. Mesdames et messieurs, bonjour. Le Conseil de l'Union européenne décide de débloquer 20 millions d'euros pour appuyer la 31e brigade de réaction rapide FRDC. L'information est contenue dans un communiqué rendu public hier jeudi. Le dit communiqué précise que cette mesure d'assistance rentre dans le cadre de la Facilité européenne pour la paix. Ce financement vise à renforcer les capacités d'États tiers et d'organisations régionales et internationales dans les domaines militaires et de la défense. Ce soutien sera mis en œuvre par le ministère belge de la Défense. Rappelons que par l'intermédiaire de ses propres forces armées, la Belgique forme déjà la brigade qui bénéficiera de ce soutien. Les détails avec vous, Jacques-Yves Molima.
Par cette mesure d'assistance, l'Union européenne fournira des équipements individuels de base non létaux, tels que des kits de commando, des trousses de premiers secours et des vêtements, ainsi que des équipements collectifs tels que des kits anti-engins explosifs improvisés, des véhicules et des radios. Par ailleurs, comme pour tout soutien au titre de la Facilité européenne pour la paix, cette mesure d'assistance prévoit un ensemble de contrôles, de garanties et de mesures de suivi destinées notamment à garantir l'utilisation adéquate des équipements par la brigade et le respect des droits de l'homme et du droit humanitaire international. Enfin, la mesure d'assistance soutiendra également la réhabilitation du siège de la brigade. Comme vous le savez, la 31e brigade de réaction rapide est active dans l'est de la République démocratique du Congo et le soutien de l'UE renforcera les capacités et la résilience des FRDC dans une région marquée par la présence de plus d'une centaine de groupes armés. Notons que la Facilité européenne pour la paix a été créée en mars 2021 pour financer toutes les actions de la politique étrangère et de sécurité commune dans les domaines militaires et de la défense, dans le but de prévenir les conflits, de préserver la paix et de renforcer la sécurité et la stabilité internationale.
Merci à vous Jacques-Yves Molima pour toutes ces précisions. Revenons un instant sur l'explosion d'un engin de guerre dans la matinée d'hier dans le village Loubwe Sud et retrouvons à Goma Bernard.
Plusieurs autres civils auraient été blessés par les éclats de cette bombe, dont 3 grièvement. Ils ont été conduits à l'hôpital de Kabizo, dans le groupement voisin de Bambo, avec l'aide des habitants et des militaires de l'EAC, indiquent plusieurs sources locales. Selon ces dernières, la zone de Moulimbi et Loubwe Sud est, depuis quelques semaines, le théâtre d'affrontements réguliers entre les rebelles du M23 et les groupes armés locaux, en particulier la coalition des mouvements pour le changement Sem-Signatura. Ces sources estiment que ce serait dans cette circonstance que la bombe aurait été abandonnée dans cette petite agglomération de Loubwe Sud. Dans la matinée hier jeudi, ce combattant aurait ramassé cet engin et par inadvertance l'aurait dégoupillé, causant sa mort ainsi que celle de 8 civils qui étaient proches de lui, parmi lesquels au moins 2 femmes et un enfant. Le mouvement citoyen La Vision pour la Victoire du Peuple œuvrant dans la zone appelle à la vigilance et à la sensibilisation des populations à ces engins non explosés qui sont de plus en plus répandus dans cette zone de guerre. Goma, Bernard Dignangui, Radio Okapi.
Lancement officiel hier à Kalemi des projets PBF dans la province du Tanganyika, les fonds pour la consolidation de la paix. Ces projets sont financés par l'ONU pour maintenir la paix dans les pays en situation à risque ou en proie à un conflit violent. Dans les Tanganyika, les territoires de Nyunzu et Kalemi sont concernés par ces projets. On écoute Annie Bipendu, chargée des programmes au secrétariat des PBF, bureau du coordonnateur résident des Nations Unies. Ses propos ont été recueillis par Paulin Munanga.
Le premier projet sur la promotion de la gouvernance sécuritaire vise à contribuer à la restauration de l'autorité de l'État et à la stabilisation des zones de retour dans les territoires de Nyunzu, à travers notamment l'introduction de la police de proximité et la professionnalisation de la police pour construire une relation de confiance entre la police et les populations. Le second projet est une continuité logique des actions humanitaires et de développement en cours dans la province du Tanganyika et se concentre sur la prévention des conflits pour la consolidation de la paix en adressant les causes profondes de ces conflits avec un accent sur l'accès équitable des deux communautés, Twa et Bantu, aux ressources socio-économiques naturelles pour une cohabitation pacifique. Ces projets s'alignent sur les priorités provinciales qui sont identifiées dans le plan national stratégique de développement, le PNCD, sur le plan provincial de développement, sur lesquels s'aligne encore le plan de transition de la MONUSCO et les programmes du système des Nations Unies à travers les agences du système des Nations Unies qui œuvrent dans la province.
Dans les territoires de Beni, pendant ce temps, des combattants en attente de démobilisation et autres éléments des groupes Maïmaï cantonnés à Kalunguta, à 40 km de Beni au nord Kivu, disent être abandonnés à leur sort depuis 2 mois. Une situation qui pousse certains à percevoir des taxes illégales ou à extorquer des vivres à la population dans des marchés de Kalunguta ou de Maboya. Contactez le responsable du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS, antenne de Beni, demande à ces derniers de se rendre volontairement au site de démobilisation de Mambango dans la ville de Beni où une solution à leur problème sera trouvée. Omar Kavota est joint au téléphone par Marc Marofimbo.
Le PDDRCS a déjà lancé un appel à tous ces combattants qui détiennent illégalement les armes à pouvoir venir adhérer au processus de désarmement et de démobilisation. Et le PDDRCS ne peut prendre à charge que les combattants qui ont répondu à son appel. Et si donc tous ceux qui sont à Kalunguta ou ceux qui sont ailleurs doivent s'attendre à adhérer au processus tel qu'est lancé par le PDDRCS. Et le PDDRCS ne pourra prendre à charge que ces qui viendront dans le cadre de rejoindre les sites de désarmement tels que validés et c'est à Mambango. On va vraiment s'y impliquer de manière à ce que tous ceux qui veulent rejoindre le processus le fassent. Mais ceux qui sont cantonnés à Kalunguta, ils ne l'ont pas été par le PDDRCS. Et comme le processus est basé sur le volontariat, nous voudrions que ceux qui saisissent le message viennent avec leurs armes et c'est à ce moment-là qu'ils pourront être pris à charge par le PDDRCS.
Sud Kivu, le service de la lutte anti-mine des Nations Unies, UNMAS, MONUSCO, a lancé hier la mise en œuvre d'un projet de conteneurs qui ont été convertis en armurerie et en commissariat de la police nationale congolaise au Sud Kivu. La campagne a démarré à la PNC Kamanyola dans les territoires de Walungu et se poursuit ce vendredi à Luberizi dans la plaine de la Ruzizi en territoire d'Uvira en faveur des FRDC, Fiston Ngoma.
Le projet fait suite à une évaluation effectuée avec la police nationale congolaise, le FARDC et les dirigeants locaux. Il vise à atténuer les risques de vol et d'enlèvement dans les zones sensibles ciblées par les projets. Parmi les sites sélectionnés figurent entre autres les commissariats de la police nationale à Kamanyola dans les territoires de Walungu, le champ de tir du centre d'instruction militaire de FARDC à Luberizi en territoire d'Uvira et une armurerie mobile pour la base logistique du secteur opérationnel Sokola 2 Sud du Sud dans la ville d'Uvira. Le projet prévoit une autre armurerie mobile devant servir à sécuriser les armes des ex-combattants démobilisés. Selon les responsables de ces projets, Eli Kambale Wagen de UNMAS, un conteneur transformé en sous-commissariat de la police permet à celle-ci de se rapprocher de la population civile. Il est mobile, meublé de tables et chaises de bureau et doté d'un panneau solaire pour permettre aux policiers de travailler dans un environnement sain. Nous y retrouvons des coffres forts à l'intérieur pour permettre de stocker 20 armes à feu, tandis que le conteneur transformé en armurerie mobile et remis au FRDC contient chacun des coffres forts pouvant stocker jusqu'à 430 armes AK-47 et des mitraillettes. D'Uvira, Fiston Ngoma Mayabala, Radio Kapi.
Je l'ai dit au sommaire, dans la province du Maïndombe, le trafic est interrompu sur l'axe routier reliant Kwamout Cité et le village Massiambio. Nous sommes dans les territoires de Kwamout. La société civile de cette entité précise que cela à cause de la présence des coupeurs des routes qui se sont installés depuis quelques jours au niveau du village Inselé, où ils empêchent toute circulation des véhicules, des motos ou des piétons. Du coup, cette situation a occasionné la pénurie de certains produits agricoles à Kwamout, car selon Martin Souta, président de cette structure, c'est bien cette ligne coupée qui alimente la cité. Il déplore la persistance de l'insécurité dans ces territoires et en appelle à la responsabilité des autorités compétentes. Martin Souta est joint par Irène Boma.
Il y a les coupés de route, c'est-à-dire les assaillants qui se sont avancés jusqu'au village Nselé qui s'approche directement de Kwamoutou. Ils se sont accaparés pour empêcher les passants de passer pour aller vers Machambio. Ils ont empêché même le véhicule de l'UNICEF qui était étranger. Ils voulaient rentrer pour qui? Ils ont vraiment traqué, pas de passage, c'est ce qui inquiète surtout vraiment et nous craignons cette situation car c'est cette route-là qui nourrit Kwamoutou et on se demande quelle est cette attitude qui continue à persister. Ils sont organisés, mais c'est quoi là, ceux qui sont là commencent à couper la route qui reliait vraiment des fois les motards de nous ramener quand même les maniocs pour les survies. Kwamoutou n'est pas alimenté, la route reliant Kwamoutou-Machambio est coupée à partir d'Inselé. On ne sait pas à la longue que sera la vie de Kwamoutou. Il sera alimenté de quoi? Parce que la seule tronçon qui nous alimentait, c'était ça.
Par ailleurs, les pêcheurs de Malembankoulou dans la province du Haut-Lomami sont inquiets. De plus en plus, les hippopotames sont visibles dans la rivière Loufira. Certains ont vu leurs pirogues détruites par ces animaux qui sont des espèces protégées. L'administrateur du territoire de Malembankoulou plaide pour leur refoulement par les agents de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Jean Gandou.
C'est depuis plus d'une semaine que ces hippopotames sèment la terreur. Ils sont localisés sur la rivière Loufira dans la chefferie de Kayumba, groupement Mondoué dans la localité de Kasenga. D'après l'administrateur du territoire de Malembankoulou, ces pachydermes se retrouvent au milieu de la rivière. Du coup, le trafic est coupé entre les villages Kasenga-Mondoué de la chefferie de Kayumba dans le territoire de Malembankoulou et les villages Kilumbe-Mouébé et Kafutu, situés dans le territoire de Bukama, plus précisément dans la chefferie de Butumba. Ces hippopotames empêchent aussi aux pêcheurs de s'adonner à leurs activités quotidiennes, car les habitants de ces villages vivent essentiellement de la pêche. D'ailleurs, plusieurs pirogues ont été endommagées par ces animaux. D'où ce cri de détresse de l'administrateur du territoire de Malembankoulou, Joël Kayembe.
Que l'ICSN, comme ils sont experts en cette matière, c'est eux qui gèrent les animaux et consorts, si ils peuvent les repousser, la voie sera ouverte. Ce sont des animaux protégés. Le commerce fluvial est interrompu. Même les pêcheurs ne peuvent pas aller pêcher sur la rivière.
Notons que c'est dans cette rivière que l'on retrouve également le grand hippopotame appelé Pasteur par les habitants de Malembankoulou, qui le qualifie de redoutable. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Autre nouvelle sur Radio Okapi. À 7 jours du démarrage officiel des 9e Jeux de la Francophonie, les travaux des infrastructures se poursuivent. Le constat est fait par une délégation gouvernementale et quelques diplomates des pays membres de l'Organisation internationale de la Francophonie, OIF. Ils sont descendus hier jeudi sur le terrain dans l'objectif justement de se rendre compte de l'état d'avancement des travaux. Fulbert Balolagué était dans leur suite. Il nous en parle dans ce reportage.
Au stade des martyrs, quelques travaux de finissage s'effectuent ici. Le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, indique que l'état des infrastructures ne pose pas de problème car les entrepreneurs font le maximum pour les rendre disponibles. D'ailleurs, les gradins du stade des martyrs sont remplis de chaises. Les travaux des stades annexes sont aussi avancés. Au stade Tata Raphaël, ils se poursuivent sur plusieurs chantiers. Mais pour le ministre de la Communication et Médias, le plus important est de disposer des infrastructures dont le pays se servira après. Patrick Mouyaya.
Le site de Tata Raphaël qui devait servir de village ne sera pas totalement près d'un délai. Vous avez vu qu'il y a un dispensaire, vous avez vu qu'il y a un centre de conférence, vous avez vu qu'il y a un grand restaurant. Il y aura certaines chambres qui pourront être prêtes, mais nous considérons qu'à ce stade, l'essentiel est fait. Nous attendons les Jeux et la RDC pourra être heureuse de recevoir des compétitions internationales pour toutes les disciplines qui sont concernées par les Jeux de la Francophonie.
À l'université de Kinshasa, chambre, réfectoire, stade d'entraînement pour le football et pour le basket sont prêts. Toutefois, il y a des travaux qui se poursuivent. C'est par exemple la pose des chaises dans certaines salles, l'asphaltage d'une route devant servir de transport aux athlètes et d'autres. Les entrepreneurs rassurent que tout sera prêt. Rappelons que la remise des infrastructures est prévue pour le 23 juillet.
Dans le même chapitre, sachez que dans un communiqué, le Canada Ottawa informe de l'envoi de sa délégation pour participer au 9e jeu de la francophonie à Kinshasa. Durant ces jeux, des jeunes artistes et athlètes de partout au Canada et âgés de 18 à 35 ans feront valoir la richesse de la culture francophone canadienne et l'excellence sportive de notre pays dans cette discipline, peut-on lire dans le communiqué. La Côte d'Ivoire, quant à elle, indique qu'elle réduit le nombre de participants de sa délégation à la suite des contraintes des dernières minutes. Compte tenu des différentes contraintes des dernières minutes, le ministère des Sports s'est vu dans l'obligation de réduire la taille de la délégation sportive ivoirienne invitée à participer au 9e jeu de la francophonie. À cet effet, le football, le tennis de table, le basketball et le cyclisme ont été retirés de la délégation sportive, précise les communiqués rendus publics à cet effet.
Actualité internationale.
Un exercice militaire a été conduit par les forces russes dans le nord-ouest de la mer Noire, a annoncé Moscou vendredi matin, indiquant que des missiles anti-navires ont été tirés pour abattre une cible en mer. Selon le ministère russe de la Défense, des navires de la flotte russe de la mer Noire ont tiré des missiles de croisière anti-navires sur un bateau cible dans la zone d'entraînement au combat de la partie nord-ouest de la mer Noire, étendue d'eau où Moscou considère depuis jeudi les navires se rendant vers l'Ukraine comme des potentiels bateaux militaires.
L'invité.
C'est Jean-Baptiste Itipo. Il est directeur des communications de la CENI. Dans un entretien accordé à Radio Okapi, il explique notamment pourquoi le délai du dépôt des candidatures pour les députés nationaux a été repoussé tout en mettant en garde les retardataires. Jean-Baptiste Itipo s'entretient avec Jemima Mbuyulu.
Monsieur Jean-Baptiste Itipo, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi avez-vous prolongé le délai du dépôt de candidature?
La première des choses à retenir, la CENI n'organise pas le processus électoral pour elle-même. La CENI organise le processus électoral pour les différentes parties prenantes au processus et principalement pour les candidatures. C'est une étape importante du processus électoral qui exige la présence des compétiteurs sur terrain. Et dans le communiqué numéro 033 de la CENI rendu public le 15 juillet 2023, il a été mentionné clairement que dans certains bureaux de réception et traitement des candidatures, la CENI n'avait pas encore à la date du 15 juillet enregistré des dossiers de candidatures qui soient déposés. C'est ainsi que l'Assemblée plénière de la CENI, sous la direction de son Excellence Denis Kadima, s'est réunie le 17 pour évaluer le processus de dépôt et réception et traitement des candidatures. Et à l'issue de cette évaluation, la CENI a jugé bon de proroger de 7 jours la période de dépôt et traitement du dossier de candidature.
Et est-ce que pouvez-vous nous faire un bilan à mi-parcours sur les dossiers de candidature déposés?
Bon, demander un bilan, c'est peut-être trop de choses à la fois. Mais nous pouvons retenir qu'à dater du 17 juillet jusqu'à maintenant, on a constaté qu'il y a une évolution significative du nombre de dossiers de candidatures qui sont déposés au niveau des bureaux de réception et traitement des candidatures. Et donc la période de prorogation valait la peine. Mais ils doivent profiter de cette période pour réellement déposer leur dossier de candidature parce qu'il n'y aura plus une autre prolongation.
Monsieur Jean-Baptiste, les candidats se sont plaints pour les conditions liées au dépôt de candidature. Quelles sont ces conditions et est-ce que vous avez allégé ces conditions?
Non, les conditions d'une manière générale, ce sont les conditions d'éligibilité et quelques cas d'inéligibilité repris, n'est-ce pas, dans la loi électorale. Et en ce qui concerne l'élection des députés nationaux, les conditions d'éligibilité sont fixées, n'est-ce pas, je crois aux articles 120 et 121 de la loi électorale, je l'ai dit de mémoire, ce sont les mêmes conditions qui n'ont jamais changé depuis 2006 globalement et même 2018, mais nous déplorons simplement le fait que les partis politiques, les règlements politiques et les candidats indépendants ne se soient pas prêtés vraiment à temps. Et alors que la CENI avait rendu public le calendrier depuis le 26 novembre 2022.
Nous aurons appris que l'expérience de 5 ans suffit. Alors, parmi les conditions, cela veut dire que vous ne tenez plus compte des diplômes universitaires.
La CENI ne fixe jamais les conditions. Les conditions sont reprises dans la loi. La loi électorale dit ceci, article 120, alinéa 5, avoir un diplôme d'études supérieures ou universitaires ou justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans les domaines politiques, administratifs ou socio-économiques. Les conditions sont fixées dans la loi.
D'accord, monsieur Jean-Baptiste. D'aucuns pensent qu'en ajoutant 7 jours, c'est tout le processus électoral qui est biaisé. Que répondez-vous à ces gens?
Dans un processus électoral, des dates contraignantes, mais il y a aussi des dates qui ne sont pas contraignantes. L'une des dates contraignantes, le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. Ça, c'est vraiment une contrainte. Et voilà pourquoi la CENI respecte ces délais constitutionnels, et donc ça ne biaise pas le processus, parce que même dans le communiqué de la CENI, le communiqué du 15 juillet, la CENI dit qu'elle respecte son calendrier. On a juste joué à l'intérieur pendant la période de dépôt des candidatures pour l'élection des députés nationaux.
Monsieur Jean-Baptiste Itipo, Radio Capi vous remercie.
Merci beaucoup, madame.
Jean-Baptiste Itipo, directeur des communications de la CENI, répondait aux questions de Jemima Mbuyulu. Et c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal, coordonné et supervisé par Pele Kipelamondo. La mise en onde était assurée par Jean-Noël Mokondo-Yogo. Moi, c'est votre serviteur, Grâce Amzati Masanzi, qui a eu l'honneur de vous les présenter. Au nom de toute l'équipe, nous vous disons merci pour votre confiance et votre fidélité à la fréquence de la paix. Vous pouvez réécouter ce radio-journal sur notre site internet www.radiocapi.net. Merci.